Bonsoir et bienvenue dans le temps du débat consacré ce samedi aux restructurations d'entreprises. Au programme jusqu'à 19h, une question qui a émergé ces derniers mois et qui revient fortement après l'annonce mercredi par Michelin de la suppression de 2300 emplois en France. Le Covid sert-il d'alibi aux restructurations d'entreprises? C'est ce qu'affirment depuis des mois des représentants syndicaux comme Philippe Martinez pour la CGT ou Yves Verrier pour Force Ouvrière qui parlent d'effet d'aubaine et dénoncent par ailleurs les dividendes distribués par Danone, Auchan, IBM ou Total alors que ces entreprises annoncent des plans sociaux. Plus inattendu, c'est aussi ce que disait à l'Assemblée nationale, de façon certes plus nuancée, la ministre du Travail Elisabeth Borne, lancer des procédures sociales d'une telle ampleur en pleine crise sanitaire pose question, car le gouvernement a aligné les dispositifs et les milliards pour soutenir l'économie. Mais que ce soit les prêts garantis par l'État ou le report des charges sociales, ils devront bien être payés et la baisse de 9% du PIB attendue pour 2020 constitue aussi la dure réalité. L'OFCE estime ainsi que s'il y a eu environ 900 000 destructions d'emplois en 2020, il aurait pu y en avoir 240 000 de plus, des emplois maintenus artificiellement donc, et qui pourraient bien ne pas survivre à 2021. Il relève aussi, l'OFCE le relève aussi, le nombre finalement assez faible de restructurations ou de faillites. Dans ce cas, peut-on vraiment parler du Covid comme d'un alibi? Et bien voilà la question que nous allons poser à nos trois invités ce soir. Nadine Levrato, bonsoir. Nadine Levrato qui est avec nous et qui est économiste, spécialiste des entreprises, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire Economics rattaché à l'université de Nanterre. Elle est au téléphone, c'est pour ça probablement qu'on ne l'a pas encore entendu. Caroline Andréès, vous êtes ici en studio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate du droit social, vous êtes spécialiste justement de ces questions de restructuration d'entreprises et vous êtes associée au cabinet Ayash Salama. Et enfin, troisième invité par téléphone, lui aussi c'est Patrick Puy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de Vivarte depuis 2016, une entreprise importante de l'habillement en France. Vous avez pris les rênes à ce moment-là, en 2016, quand l'entreprise était en grande difficulté, ce qui n'était pas une première pour vous, puisque vous définissez vous-même comme un manager de crise.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
J'ai été 25 ans DRH.
Comptez virer combien de personnes à Beauvais ?
1250.
Je pense que les salariés n'ont pas à être la variable d'ajustement des difficultés économiques actuelles.
Près de 1500 nouvelles suppressions de postes annoncées.
Il y a 6 mois, les hôtes et les hôtesses de caisse étaient les héroïnes de la nation. Et aujourd'hui, on dit 70% des caisses classiques vont être remplacées par des automates.
L'hypermarché, qui est le format dominant dans lequel Auchan a beaucoup œuvré, rencontre un moindre succès auprès des consommateurs.
Bien évidemment, il n'y a pas de plan social.
Nous, ce qui nous concerne à Valenciennes, eh bien, on subit encore une situation qui est absolument scandaleuse.
On est en train de se faire tuer par nos usines sœurs, que ça soit Bridgestone, que ça soit même les concurrents, c'est la même chose. Là, j'ai même su qu'apparemment, à Continental, ils ferment une usine en Allemagne.
Je comprends même pas qu'on l'accepte. Parce que pour moi, quelqu'un qui dépose le bilan, c'est qu'il a plus d'argent. Donc je sais pas comment il fait pour reprendre une entreprise.
Moi, je pense qu'on s'est un peu servi du Covid pour mettre la clé sous la porte. C'est un peu une excuse.
On a été particulièrement choqués parce qu'il n'y avait rien qui laissait entendre qu'on allait supprimer autant d'emplois en France, puisque Michelin parle de 2300 suppressions d'emplois.
La crise a abondé. Ils ne veulent pas nous voir, en fait. Ils se servent de cette crise-là.
Patrick, puis peut-être une première réaction à ce florilège de réactions qui a été monté par notre réalisatrice Vanessa Nadjar, de réactions aux plans sociaux. Et singulièrement, quand vous entendez le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'était sur France Inter, dire « les salariés n'ont pas à être la variable d'ajustement des difficultés économiques actuelles ».
Je suis perturbé par ce genre de phrase, parce que une entreprise, il y a un certain nombre de variables, les investissements, la trésorerie, les prix d'achat, les prix de vente, et puis la masse salariale. Pas une variable est une variable d'ajustement. Toutes les variables sont des variables d'ajustement, on peut en dire aussi. Et une entreprise, elle doit s'adapter. Nous, on n'est pas des économistes, les chefs d'entreprise. On n'est pas là pour prévoir ou pour lancer des amortisseurs sociaux qui sont nécessaires. On va en parler, bien sûr. En cas de crise, et la crise du Covid est indiscutablement une crise économique après être une crise sanitaire grave, on n'est pas là pour ça, on est là pour adapter les entreprises dont on a la charge aux conditions qui vont être les leurs après des difficultés conjoncturelles ou structurelles, après des difficultés liées à la concurrence, liées à la technologie, liées à des changements d'actionnaires, etc. etc. Et dans cette mesure-là, toutes les variables doivent être visitées. Alors, on commence par revisiter le portefeuille d'activité, on décide de céder des actifs non stratégiques ou des actifs stratégiques à grande valeur parce qu'ils permettent de restructurer les actifs qui sont à moindre valeur. Mais il ne faut pas s'interdire de regarder aussi la masse salariale. Vous savez, la masse salariale dans le chiffre d'affaires d'une entreprise en France, ça oscille entre 4% pour les moins consommatrices de masse salariale jusqu'à 50 ou 60% pour les sociétés de services à faible valeur ajoutée. Donc, bien sûr que c'est une variable qu'il faut regarder. Et le florilège que nous avons entendu au début fait penser que l'accent est mis dessus par des responsables syndicaux. Ils sont un peu dans leur rôle. Quand Bruno Le Maire le dit, c'est un peu plus...
Oui, Elisabeth Borne, hein, comme je le citais en introduction, on aura l'occasion d'en discuter, mais puisque vous disiez, Patrick Puy, je ne suis pas économiste, une économiste, il y en a une ce soir avec nous, c'est Nadine Levrato. Nadine Levrato, comment vous réagissez à cette question, voilà, de variable d'ajustement, cette remarque de Bruno Le Maire, comme quoi les salariés seraient devenus la variable d'ajustement des difficultés économiques actuelles?
C'est en effet un terme qui revient de manière récurrente. Hein. Chaque fois qu'il y a un plan de licenciement, on peut envisager ce constat. Alors, je pense que si on parle de salariés variables d'ajustement, c'est souvent par rapport aux dividendes qui peuvent être versés en parallèle par des entreprises qui licencient. Alors certes, moi j'entends très bien ce que dit Patrick Puy, en effet, quand on voit une entreprise qui réduit l'ensemble de sa voilure et qui va faire des coupes dans tous les coûts qu'elle peut trouver, y compris auprès de ses fournisseurs en essayant de réduire les prix d'achat des consommations intermédiaires. Mais la question des salaires est posée dans des termes différents. À partir du moment où une entreprise reçoit d'importantes aides d'État, notamment comme c'est le cas actuellement, hein, mais c'est vraiment régulier, puis quand on regarde tous les ans dans le budget de l'État, le poids des dépenses fiscales qui prennent la forme d'exonération de cotisations sociales, par exemple pour les entreprises. Donc on peut se demander, lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre travail et capital, quelles sont les priorités des entreprises. Et je pense qu'on peut interpréter, on doit interpréter cette question de variable d'ajustement ou qui est la variable d'ajustement à l'aune des dividendes qui peuvent être versés par les entreprises. Et c'était un petit peu dans ce sens-là que Bruno Le Maire, je crois, était intervenu.
Oui, c'était à l'occasion de General Electric, de l'annonce par General Electric de
oui, et aussi par rapport à Danone, hein, puisque on avait d'un côté Emmanuel Faber qui avait annoncé à
le PDG de Danone.
Le PDG de Danone, en effet, que Danone devenait la première société à mission, et quelques mois après, il annonce 2000 licenciements en disant, alors je ne sais plus sur quelle radio c'était, que il fallait mettre en confiance les actionnaires de l'entreprise.
C'était aussi sur France Inter.
C'était sur France Inter, d'accord. Et c'était dans ce type de situation qu'on sent la tension exacerbée entre, d'un côté, les actionnaires propriétaires de l'entreprise et, de l'autre, les salariés, et que l'arbitrage qui s'opère au niveau comptable, hein, de l'excédent brut d'exploitation des entreprises va se faire sentir. Donc on peut entendre.
Oui, c'est dans ce cadre-là, en effet, on va y revenir, parce que je voudrais faire réagir Patrick Puy évidemment sur cette question, mais puisqu'on vous a pas encore entendu, Caroline Andréès, et que vous accompagnez en tant qu'avocate, notamment du côté des chefs d'entreprise, vous les accompagnez dans ces moments où ils doivent restructurer, en tout cas ils ressentent le besoin de restructurer. Comment vous recevez cette idée de l'emploi comme variable d'ajustement? Qu'est-ce que vous disent vos clients en la matière?
moi, j'ai pas tout à fait ce sentiment, parce que il faut quand même rappeler que la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de suppression de postes importante, c'est quelque chose qui est traumatisant pour les entreprises. Si on est cynique, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux. Et c'est une variable d'ajustement qui n'est pas si simple à mettre en œuvre. Je rappellerai quand même qu'un licenciement pour motif économique, ça répond à des conditions juridiques qui sont extrêmement strictes. Il y a un encadrement des procédures qui est très strict, avec notamment la négociation d'accords collectifs ou la consultation du CSE, puis une validation de la directe. Donc on peut pas faire n'importe quoi et donc dire les salariés sont une variable d'ajustement. Ça laisserait supposer que finalement on décide de licencier alors même qu'on n'aurait pas des motifs, et en réalité c'est extrêmement compliqué de mettre en place un PSE. C'est quelque chose qui est extrêmement
rigoureux.
PSE,
c'est le plan de sauvegarde de l'emploi, qui est le nom depuis 2002
des plans sociaux. Oui. Et ce sont des licenciements qui sont mis en place dans des entreprises de taille relativement importante. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces plans-là qui concernent des entreprises qui ont au moins 50 salariés, mais il ne faut pas aussi oublier tout les départs qui peuvent intervenir dans les PME et petites entreprises qui sont véritablement le tissu social et économique français. Et eux, c'est vrai qu'ils ont moins de visibilité, on en parle moins, mais ils existent aussi. Ceci étant dit, je n'ai jamais vu parmi mes clients un chef d'entreprise qui se réjouit de licencier.
Patrick Puy, est-ce qu'on met en place un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi ? Est-ce qu'on restructure une entreprise pour sauver les dividendes des actionnaires ?
Je crois qu'il faut parler de deux choses très, très, très différentes. J'apprécie beaucoup ce qui vient d'être dit. Un PSE, un plan de licenciement, c'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose de douloureux, bien sûr, pour ceux qui le vivent. C'est quelque chose de douloureux pour le chef d'entreprise. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'est pas heureux d'embaucher. Il n'y a pas un chef d'entreprise, et c'est sa fonction, qui n'est pas heureux de créer de la richesse. Créer de la richesse, ça veut dire créer des emplois. Ça veut dire innover, ça veut dire, et à la fin, je le répète, créer des emplois. Et il n'y a pas un chef d'entreprise qui n'est pas malheureux de devoir passer par une phase de plan de licenciement. C'est douloureux, c'est cher, c'est compliqué. L'entreprise en ressort évidemment moins bonne, en moins bonne performance, en moins bonne santé morale, mais également de compétences qu'elle y est rentrée. Donc c'est quelque chose auquel on se résout, j'ai envie de dire, en dernier recours. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Alors, ça c'est un débat qui revient à dire en cas de besoin de restructuration, parce qu'on est en train d'oublier le besoin. Une entreprise ne fait pas un plan de licenciement par plaisir, elle le fait parce qu'elle en a besoin. En cas de besoin de restructuration, je le répète, on regarde les actifs, on regarde les investissements, on regarde ce qu'on peut faire en termes d'augmentation de prix, de modification du portefeuille d'activité, etc., et également de la masse salariale, parce que il n'y a pas de tabou à le faire non plus. Ça, c'est de la restructuration. Et elle est permanente, elle est malheureusement plus forte en période de crise, on va y venir, mais elle est permanente. C'est souvent une évolution tranquille, mais quelquefois, c'est une évolution plus discontinue, parce qu'il y a une discontinuité des paramètres exogènes de l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec la question des dividendes, quitte à être un petit peu provocateur. Le capitalisme, c'est pas une théorie, c'est une évidence. Le capitalisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise a besoin de capitaux. Et pour qu'elle ait besoin de capitaux, il faut attirer les capitaux. Et pour attirer les capitaux, il faut les rémunérer. Et tout le maire qu'il est, le ministre de l'économie, quand il dit qu'il va tenter de légiférer, il ne l'a pas fait d'ailleurs, hein, sur le fait que les dividendes devraient être limités, voire réduits, voire anéantis pour les entreprises qui toucheraient des aides de l'État. Je suis un petit peu horrifié quant à le niveau du débat économique. Parce qu'encore une fois, si vous refusez de distribuer des dividendes, ben c'est très simple. Les actionnaires ne seront plus actionnaires, les investisseurs ne seront plus investisseurs, et il n'y aura plus d'emplois demain. Donc nous sommes là dans un monde dans lequel il faut que l'investisseur trouve son intérêt à investir. Et c'est pas pour l'actionnaire, c'est pas pour le bien du chef d'entreprise, c'est pas pour le bien de tel ou tel, c'est pour le bien de l'entreprise dans son sens général, c'est-à-dire pour le bien de l'emploi. Donc, le débat qui consiste à opposer dividendes à plan social me paraît un débat d'un autre siècle. Et quand je parle d'un autre siècle, je pense plutôt au 19e qu'au 20e. La question des dividendes est une question de maximisation des ressources financières, et la question du plan social est malheureusement liée à des besoins de restructuration. On en est là aujourd'hui. Il y aura des besoins de restructuration importants, bien sûr.
On va y revenir évidemment, mais je voulais faire réagir Nadine Levratos, ce que vous venez de dire, Patrick Puy.
Alors, j'entends très bien ce que dit Patrick Puy, et cela n'est pas véritablement surprenant vu d'où il parle. Hein. C'est tout à fait normal qu'il s'exprime de la sorte. Alors premièrement, mes collègues qui font de l'histoire économique seraient horrifiés d'entendre que le capitalisme n'est pas un régime, mais une évidence, puisqu'il y a depuis très longtemps des auteurs qui s'intéressent justement sur les différents modes de fonctionnement des économies, parmi lesquels le capitalisme est identifié comme un régime avec ses multiples facettes. Donc oui, il y a des théories du capitalisme, comme il y a des théories d'autres modes de régulation de l'économie. Deuxièmement, la question n'est pas de savoir si on est triste ou si on est content de faire un plan de licenciement ou un plan de sauvegarde de l'emploi. La question, c'est de savoir ce qui se passe dans ces moments-là et pas les états d'âme de tel ou tel, parce que on pourrait entrer dans les difficultés sociales, mais je crois pas que ce soit l'objet. Aujourd'hui, on parle des personnes morales, donc on va essayer de rester à ce niveau-là. Donc le mal-être du chef d'entreprise, qui d'ailleurs dans les grands groupes n'est pas celui qui met en place le plan de sauvegarde de l'emploi ou qui négocie les accords de performance collective, hein. Souvent il y a des cabinets justement qui interviennent pour essayer de dépersonnaliser la chose et traiter les choses plus froidement, justement avec moins de proximité entre ceux qui mettent en place ces plans et ceux qui les subissent. Et je crois qu'il faut quand même regarder globalement l'entreprise, c'est-à-dire avec les grandes masses qui interviennent. Et ce qui peut interpeller aussi, c'est que même des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire ont pu à la fois encaisser ou bénéficier, je vais dire, pour être plus neutre, des aides qui ont été mises en place de façon très importante depuis le début de la crise, mais dont une partie existait déjà avant, ces entreprises n'ont pas été particulièrement exemplaires non plus. Et c'est là qu'il y a une des limites du discours de Bruno Le Maire, dans le sens où, par exemple, Orange a très peu réduit son dividende, alors que l'État détient directement près de 15% et BPI France également. Même chose pour la Française des Jeux, STM. Donc on a toute une série d'entreprises qui, depuis le début de la crise, continuent de verser des dividendes, ont bénéficié des aides pour l'activité partielle, des prêts garantis, etc., et qui, par ailleurs, n'ont pas véritablement respecté une règle tacite, hein, ben rien ne les y obligeait. Et c'est ça qui est aussi important de le rappeler. Les entreprises ne doivent rien à personne, c'est-à-dire que les aides n'étant pas conditionnées par quelque engagement formel que ce soit, une fois qu'elles les ont reçues, elles sont libres de mener la stratégie qu'elles souhaitent mener, sans qu'il y ait de contrôle possible. Et je voudrais dire aussi que les PSE ne sont que l'une des manifestations des tensions qui existent sur le marché du travail. J'ai entendu tout à l'heure parler d'accords de performance collective, où là, il n'y a pratiquement pas de contrôle, justement. Et c'est pourquoi ils sont tellement prisés des entreprises. Alors, plus que les procédures de
licenciement. Oui, bien sûr. Alors justement, Caroline Andréès, pour rentrer un peu dans le détail de ce dont on parle là véritablement, cette idée de restructuration, parce que la restructuration, ce n'est pas uniquement du licenciement, évidemment, c'est aussi repenser l'organisation de l'entreprise, l'organisation du travail, et il y a pour cela toute une boîte à outils, on peut le dire, qui est mise en place depuis un certain temps, mais aussi qui s'est révélée à l'occasion de cette crise du Covid. Donc on a parlé des PSE, des plans de sauvegarde de l'emploi, ça existe depuis 2002 sous cette forme-là, mais depuis bien plus longtemps en réalité. Il y a les plans de départ volontaire, la rupture conventionnelle collective, l'accord de performance performance collective, tout ça, ce sont des acronymes, hein, je vais pas non plus assommer les auditeurs avec les acronymes, activité partielle de longue durée, voilà, c'est une liste de dispositifs et dont on entend bien, notamment dans ce que dit Nadine Levrato, que ce qui pose problème, c'est que ils sont à la main des chefs d'entreprise et on a l'impression qu'ils peuvent les utiliser un peu comme ils veulent à l'occasion de cette crise, sans aucune contrepartie, sans être mis forcément devant des responsabilités. Comment vous réagissez à cela, Caroline Andréas?
Alors, je ne partage pas tout à fait cette analyse, mais je pense que tout dépend de ce dont on parle. Je mets à part la situation du plan de sauvegarde de l'emploi. Si on prend l'accord de performance collective...
Alors, expliquez-nous ce que c'est qu'un accord.
Alors, l'accord de performance collective, tout d'abord, c'est un accord collectif. Donc, c'est un accord majoritaire signé avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Donc, c'est là que je ne peux pas véritablement laisser dire que c'est intégralement à la main de l'employeur, puisque l'accord qui est signé doit être signé par les organisations syndicales qui représentent 50% des voix lors du premier tour des élections professionnelles. Donc il y a quand même un garde-fou qui est lié la participation active dans la négociation de ces accords et leur mise en place des organisations syndicales représentatives. Ces accords permettent à l'employeur de réduire la durée du travail, augmenter la durée du travail, réduire les rémunérations, mettre en place des mobilités géographiques. Et ils doivent être mis en place dans un certain nombre de conditions. Il y a 3 conditions et c'est vrai que ces conditions sont relativement larges puisque c'est la sauvegarde de l'emploi, la création d'emplois, mais également la nécessité liée au fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un dispositif très souple, flexible, ce qui fait que il a quand même un certain succès et il peut par exemple permettre d'augmenter la durée du travail sans pour autant corrélativement augmenter la rémunération. Et les salariés qui refuseraient l'augmentation de la durée du travail sans augmentation corrélative de leur rémunération peuvent faire l'objet d'un licenciement et ce licenciement est justifié par le refus d'accepter les dispositions de l'accord de performance collective. Donc c'est là que ces accords sont critiqués, puisqu'on dit, si on met en place ces dispositifs qui visent finalement à pallier des difficultés économiques ou une situation économique temporairement difficile, ben finalement, on aurait dû faire des licenciements pour motifs économiques, faire bénéficier les salariés de tout l'arsenal protecteur et d'accompagnement qui sont en place dans le cadre des licenciements pour motifs économiques. Or, les accords de performance collective ne le permettent pas, et c'est ce pourquoi ils sont critiqués. Mais je pense qu'il faut aussi voir, parce qu'on parle de suppression de postes, on parle de licenciement, mais il faut voir aussi que ces accords de performance collective, pourquoi ils sont mis en place? Ils sont précisément mis en place pour préserver l'emploi.
Oui, Patrick, puis peut-être que ce qui se joue là, c'est une crainte de voir ces mécanismes, qui sont des mécanismes de crise, et se perdurer, devenir la norme, puisque la crise elle-même a l'air de devenir la norme. Comment est-ce que vous réagissez?
Je crois qu'il ne faut pas être aussi binaire que ça. On parle de crise, mais une entreprise, c'est pas un être statique, c'est pas un être dynamique, c'est un être convulsif. C'est un être convulsif qui réagit à des convulsions. Et je le répète, ces convulsions, elles peuvent venir de modifications exogènes qui sont réglementaires, qui sont actionnariales, qui sont concurrentielles, qui sont technologiques. Et en face de ça, une entreprise, elle va s'adapter, elle doit s'adapter d'ailleurs, et le contrôle n'est pas exercé par l'État. Le contrôle doit être exercé par ses actionnaires. C'est, je répète, une évidence, mais il est bon quelquefois de la répéter. Et donc cette entreprise, elle doit s'adapter en revisitant son portefeuille, en modifiant son offre de services et de produits, etc. etc. Et elle va le faire en embauchant et en licenciant. Et ça s'appelle la vie, ça s'appelle la respiration. Et c'est assez heureux que ce soit comme ça. Depuis 1990, on a créé 3 millions d'emplois en France. On en a perdu quelques-uns aussi, mais on a créé 3 millions d'emplois. Tous les pays ont des protections de l'emploi. La France a des tas de choses pour protéger l'emploi. Malheureusement, c'est un peu trop pour protéger les employés que l'emploi. Donc on se préoccupe pas assez, me semble-t-il, de fluidifier le marché de l'emploi pour faire en sorte que là où il y a des besoins, eh bien, il y a des embauches possibles, et là où il y a besoin de procéder à des licenciements, parce qu'il y a besoin de procéder à des licenciements, ceci soit, non pas facilité, mais ne soit pas lié à des impedimenta trop forts. Vous savez, en période de crise, et à l'évidence le Covid en est une, il va y avoir après, on le voit pas encore, hein, on le voit pas encore. On pensait, nous les professionnels de la restructuration, qu'on allait le voir, on le voit pas encore, on va le voir bientôt. Des plans de licenciement de l'ordre de 100 000, 200 000, 300 000. Je pense qu'on est plutôt entre 200 000 et 500 000 personnes. C'est massif. Si on fait beaucoup de choses pour essayer de les retarder ou pour essayer de les freiner, je comprends la logique, bien sûr, parce que personne n'a envie de ça. Donc on va essayer de les freiner pour des considérations souvent humanistes, quelquefois démagogiques, quelquefois politiques. Eh bien, s'il y a 300 000 aujourd'hui menacés, et si on freine trop, ce sera 500 000 dans un an. Comprenez ? Quand une entreprise a besoin de s'adapter et qu'on l'empêche de le faire, c'est très simple. La restructuration qui viendra après sera plus longue, plus coûteuse, plus douloureuse et elle abîmera l'entreprise. Et personne n'y a intérêt. Donc, moi, s'il y avait un seul message à délivrer aujourd'hui, c'est pas de dire dividende contre absence de PSE, ça c'est un débat encore une fois d'un autre siècle, mais c'est de dire, il ne s'agit pas de faire confiance aux chefs d'entreprise, il s'agit de dire, ne l'empêchons pas de restructurer l'entreprise pour le bien de l'entreprise et à la fin pour le bien de la nation, qui fait que si on l'empêche, et encore une fois, ce sera plus douloureux plus tard.
Caroline Andrés.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Patrick Puy, parce que effectivement aujourd'hui, je crois qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. À mon sens, le plus dur est devant nous, parce que on va avoir un durcissement très significatif des conditions de l'activité partielle, sauf pour les sociétés qui relèvent des secteurs protégés. On va avoir des débuts de remboursement des PGE qui ont été consentis.
Donc les prêts garantis par l'État.
Oui, tout à fait, les prêts garantis par l'État à partir du mois d'avril 2021. Et à un moment donné, il va y avoir un terme mis au système de report de charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis l'économie et les entreprises sous perfusion, précisément comme l'indiquait Patrick Puy, pour retarder finalement les licenciements qui pourraient être liés à la crise. Si ce n'est que tout ceci va avoir un terme, et au moment où ce terme va arriver, la restructuration, elle sera inévitable.
Oui, Nadine Lebrato, l'Observatoire français des conjonctures économiques, le FCE, parle, lui, d'une rétention d'emplois à hauteur de 240 000 emplois, et qu'il y aura un ajustement inévitable. On est quand même dans une situation économique qui est celle-ci aujourd'hui.
Ah mais tout à fait, on a perdu à peu près 950 000 emplois en 2020. Des faillites évitées ont été constatées, puisque par rapport à 2019, on est à peu près à 37% de faillites en moins. On parle également d'entreprises zombies qui sont soutenues par les aides publiques et les reports de charges diverses et qui, en effet, risquent d'être confronté à ce mur de remboursement. En même temps, les réserves qui ont été constituées par les entreprises sont colossales. Donc, il va falloir voir comment elles vont être utilisées, puisque aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de la Banque de France, on voit que les réserves constituées par les entreprises sont extrêmement importantes, et c'est parce que elles ont bénéficié justement des prêts garantis par l'État, entre autres, et qu'elles n'ont pas réalisé d'investissement. Donc, il y a de la liquidité. La question, c'est de savoir comment elle va être utilisée dans l'avenir. Mais donc on s'attend à ce que cette année, pardon, on est déjà en 2021, les faillites soient orientées à la hausse et que il y ait encore des pertes d'emplois. Mais ce qui se passe au niveau de la ressource du travail dans les entreprises, c'est que quand même, depuis le début des années 1980, on a remplacé la protection des salariés par la protection de l'emploi. Et à partir du moment où on a été dans un contexte de crise, où le chômage est devenu le problème majeur des sociétés, on a entendu dénoncer par les organisations représentatives des entreprises l'excès de mesures protectrices qui a été analysé dès les années 80, donc, hein, comme un constituant majeur de la dégradation du marché du travail comme élément décourageant les initiatives des entrepreneurs.
Et vous, économiste, vous constatez pas la même chose ?
Non, on ne constate plus la même chose. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y ait des difficultés, même s'il y a un coût, et c'est normal, puisqu'il y a le coût ensuite du chômage est supporté par la collectivité. Donc, on ne peut plus considérer que il soit très difficile de se débarrasser, entre guillemets, de salariés. Le mot flexibilité a été utilisé à toutes les sauces, et le droit n'est plus particulièrement protecteur des salariés. Et d'ailleurs, même Madame Andréès pourrait en parler mieux que moi, on a quand même eu des arrêts de la Cour de cassation qui ont autorisé les licenciements, y compris pour maintenir la compétitivité d'entreprise. Donc on a quand même beaucoup de possibilités, même lorsque les difficultés économiques ne sont pas constatées, mais que l'entreprise peut prouver qu'elle risque de perdre en compétitivité dans l'avenir pour des raisons de mutation technologique, parce qu'elle a besoin de réorganiser, etc. Les licenciements sont autorisés. Donc on a quand même bien des possibilités de licencier. D'ailleurs, si elles étaient si rares, on n'aurait pas autant de réductions d'emplois qui sont pratiquées au quotidien dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, bien sûr, il y a eu des créations d'emplois, c'est heureux. Il y a eu croissance démographique aussi et extension des parts de marché à l'international. Donc, les entreprises ont créé des emplois. Ce ne sont pas les grands groupes, d'ailleurs, qui ont été moteurs de cette création d'emplois. Mais il y a aussi eu beaucoup de destructions. Et on ne remplace pas une entreprise ou un établissement qui ferme, comme Bridgestone, par exemple, à Béthune, par des créations de micro-entreprises ou d'auto-entrepreneurs. Bon,
vous nous avez dressé le plan pour la deuxième partie de l'émission, Nadine Le Breton, par votre intervention qui était très riche. Mais pour l'heure, il est 18h42 et il est temps d'écouter un peu de musique.
France Culture, le temps du débat du samedi, Raphaël Bourgois.
Temps du débat du samedi, on discute ce soir la question de savoir si les restructurations d'entreprises sont que le Covid sert d'alibi aux restructurations d'entreprises. On en discute avec nos trois invités, Nadine Le Breton, qui est économiste spécialiste des entreprises et directrice de recherche au CNRS, avec Patrick Puy, qui est le président de Vivarte depuis 2016 et qui est aussi un manager de crise, et avec vous, Caroline Andrès, qui est avocate. Et je vous donne la parole tout de suite, puisque avant la virgule et cette coupure musicale, Nadine Le Breton parlait de ces arrêts de la Cour de cassation autorisant les licenciements pour maintenir la compétitivité des entreprises, et donc interrogeant finalement ce qui est une question qui se pose beaucoup en ces derniers temps, notamment depuis la discussion de la loi PACTE, c'est-à-dire quelle est la fonction, quel est le but d'une entreprise, est-ce qu'on peut attendre d'elle qu'elle ait une fonction sociale, par exemple, une responsabilité sociale.
Alors, juste sur les arrêts qui sont évoqués, ce sont les arrêts assez célèbres, page jaune, qui datent de 2003 ou 2004, qui ont dit que les licenciements pour motifs économiques pouvaient être justifiés dès lors qu'ils intervenaient pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Et en l'occurrence, les licenciements avaient été mis en place pour assurer la transformation de l'entreprise page jaune vers un virage, vers le digital, vers le numérique. Cette faculté de licencier en cas de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a été intégrée dans la loi et figure désormais dans le Code du travail. Je pense qu'il est important, c'est ce que Patrick Puy indiquait tout à l'heure, de prendre en considération le fait qu'une entreprise, c'est un être vivant et qu'elle a besoin de se transformer pour s'adapter aux nouvelles contingences économiques. On voit bien qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui rencontrent des difficultés importantes parce qu'elles n'ont pas su prendre le virage du digital, par exemple. Et donc, effectivement, à partir du moment où une entreprise a besoin de se transformer, elle va avoir besoin de compétences différentes. Donc, certaines compétences, elle ne va plus en avoir besoin, ça va justifier les licenciements. Certaines compétences vont devenir nécessaires et ça va justifier des embauches ou de la formation, des adaptations d'emploi. Enfin, je pense qu'il est important aussi d'utiliser tout l'arsenal juridique dont on peut disposer pour permettre à nos entreprises de demeurer compétitives, d'évoluer dans le sens de l'histoire et dans ce que demande l'économie.
Patrick, puis tout à l'heure Nadine Levrato disait il n'est plus difficile de licencier en France. Vous êtes d'accord avec cette approche ?
Je suis un peu déçu qu'on ne parle que de licenciement. La crise, elle va avoir des effets bien plus grave sur les licenciements, certainement, mais sur la santé des entreprises. Caroline Andréas le dit très bien, tous les paramètres de l'entreprise vont être mis à mal. Le sujet n'est pas tellement la difficulté de licencier, et grâce à des gens comme Caroline, on a des conseils, on sait le faire, et on sait le faire avec respect, on sait le faire avec respect des procédures, avec respect des travailleurs. Le vrai sujet, c'est pas celui-là, c'est comment on adapte l'entreprise. Comment on adapte l'entreprise, c'est-à-dire quelles compétences on va chercher, quelles ressources financières on va chercher. Et là, je parle pas des aides de l'État. Un chef d'entreprise, c'est pas un mendiant qui recherche des aides de l'État. C'est quelqu'un qui demande à ce que on n'empêche pas sa croissance. Parce qu'une entreprise, c'est fait pour nourrir ses actionnaires, bien sûr. C'est fait surtout pour satisfaire son client. C'est fait surtout pour satisfaire son client et c'est fait pour promouvoir la dignité des gens qui y travaillent. Voilà les trois buts de l'entreprise. Donc le rôle social de l'entreprise, il est là. Ça n'empêche pas les licenciements. Un licenciement, ça ne veut pas dire que la personne qui est licenciée n'est pas respectable. Ça veut dire que l'entreprise doit s'adapter. Et je crois que c'est le maître mot. Donc le licenciement, non, il n'est pas complet, il n'est pas difficile. Il le deviendrait si des esprits chagrins nous disaient bah, « Tiens, t'as obtenu un PGE ?» Donc t'as pas le droit de licencier, ça n'a rien à voir. Et puis le PGE, il est là pour passer un cap difficile lié à une crise compliquée.
Patrick, puis vous dites les chefs d'entreprise ne sont pas des mendiants qui vont demander des aides, mais quand ils en reçoivent des aides, comme c'est le cas aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une responsabilité particulière ?
Ils ont d'abord la responsabilité. Le PGE, je rappelle, c'est un prêt. Et la responsabilité de celui qui reçoit un prêt, c'est de le rembourser. Et Caroline Andréas le disait tout à l'heure très bien, à partir de la date d'avril, il faudra le rembourser. Et d'ailleurs, on va voir que la difficulté de remboursement de quelques entreprises qui les ont obtenues va faire que, évidemment, le nombre de faillites et de procédures collectives va augmenter à partir de ce mois d'avril. Oui, bien sûr, la responsabilité, c'est de rembourser. Ce PGE a été mis en place pour passer la crise du Covid qui fait qu'un certain nombre d'entreprises ne pouvaient plus fonctionner. Ce n'est rien d'autre. Et ça paraît à peu près raisonnable que la solidarité nationale fasse en sorte que, devant une impossibilité de produire, il y ait une aide conjoncturelle. Je crois d'ailleurs qu'il faut se poser la question du montant, de la forme de ces aides et de la façon dont l'économie va subsister après cette crise. Parce que 400 milliards de dettes supplémentaires, alors on me dit que c'est pas grave, que les taux d'intérêt sont bas.
Ça c'est la dette publique, hein, c'est pas la dette due au PGE. Voilà, on estime à 155 milliards pour que nos auditeurs aient un ordre d'idée, même si ce sont toujours des chiffres assez faramineux. Mais forcément, la France est une grande économie. 155 milliards d'euros si on additionne PGE et report de dette fiscale et sociale.
Ça ne l'est plus, j'entendais tout à l'heure. dire que la France avait gagné des parts de marché, non, c'est totalement faux. La France a beaucoup perdu de parts de marché depuis 1981. Malheureusement. Cette dette, l'augmentation colossale de la dette, il faudra un jour y faire face. Y faire face, on le fera que de deux façons. Enfin, que d'une seule façon. C'est de créer des richesses. Et on crée des richesses de deux façons. En travaillant plus, ou mieux, mais plus aussi. Et en innovant. Et je crois qu'il faut maintenant chercher les solutions à la sortie de crise. La sortie de crise, c'est prendre conscience que la dette est insupportable, redonner la flexibilité de la respiration aux entreprises pour créer des richesses.
Nadine Levrato.
Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais une entreprise n'est définitivement pas un être vivant. Une entreprise, c'est une institution, c'est un construit juridique, ce n'est pas un être vivant. Et l'analogie avec la biologie, suivant laquelle les entreprises naissent, se développent, atteignent leur maturité et s'étiolent, ça c'est ce que l'on fait en cours de première année pour expliquer éventuellement la vie des entreprises. Mais ce n'est pas du tout la réalité des trajectoires d'entreprise, puisque même si certaines disparaissent, des personnes morales disparaissent et sont radiées des registres du commerce, leurs actifs peuvent persister. Il peut y avoir des fusions, des acquisitions, le capital, le savoir-faire, une partie des ressources va être transférée à d'autres entreprises. Donc non, une entreprise n'est pas un être vivant et elle est cadrée par le droit, comme le marché. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de fonctionnement possible de l'économie. Donc, il faut prendre garde quand même, hein, quand on utilise des images et des exemples comme ça, à quand même se référer à des analyses, à des approches qui sont quand même éprouvées par l'histoire, qui sont testées dans des publications, et il faut donc se référer à l'analyse économique de l'entreprise. Cette injonction à l'adaptation qu'apprécierait beaucoup Barbara Stiegler, que l'on a entendu tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Bien sûr que personne ne conteste que les entreprises doivent investir, qu'elles doivent s'adapter aux nouvelles conditions du marché, au goût de leurs clients, aux évolutions, aux chocs conjoncturels, etc. Personne ne conteste ça. C'est d'ailleurs le rôle des managers, de la technostructure et des équipes à l'intérieur des entreprises que de prévoir ces stratégies d'investissement. Et d'ailleurs, ce que l'on reproche quand même aussi en partie aux entreprises qui se vérifient lorsqu'on regarde là aussi les statistiques de l'INSEE et de la Banque de France, c'est que les entreprises françaises ont tendance à moins investir que d'autres entreprises. Et c'est peut-être ça aussi qui fait la source du problème. Et dernier point, une grande partie des aides n'ont pas à être demandées par les entreprises. Elles ne sont pas quérables. Elles sont de fait attribuées comme les cotisations sociales qui sont calculées par les URSSAF et qui sont automatiquement appliquées aux entreprises sans qu'elles n'aient à constituer le moindre dossier. Donc, il y a une perfusion, entre guillemets, qui est constante de la part de la collectivité pour soutenir les entreprises. Et tant mieux si ça leur permet d'être en meilleure santé.
Alors Patrick, puis vous vouliez réagir.
Non, je trouve que le dernier mot qui vient d'être employé est parfaitement juste. Il y a une perfusion de la puissance publique et des finances publiques pour les entreprises. Nous sommes au moins d'accord là-dessus. On peut s'en réjouir. On peut aussi y trouver quelques motifs de crainte.
C'est vous, vous estimez, Patrick Puy, qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de restructuration?
Ah, j'estime qu'on les retarde. Pour des raisons compréhensibles, je répète, humanistes, mais aussi démagogiques et politiques, et on les retarde, et le réveil sera très brutal. Je ne suis pas en faveur des restructurations, je ne pense pas qu'il faut les faire par principe. Je pense qu'une entreprise doit s'adapter. Le Covid a fait en sorte que, si on prend l'exemple du retail, c'est-à-dire la distribution de textiles que je connais mieux que d'autres sujets.
Oui, parce que vous êtes le président de Vivarte, je rappelle.
Exactement. Le secteur de la vente de la chaussure, ça utilise 40 000 personnes aujourd'hui. Ça emploie 40 000 personnes aujourd'hui. Eh bien, on va en laisser sur le carreau entre 4 000 et 8 000, entre 4 000 et 12 000. Si on le fait demain, L'entreprise aura financé pendant un an des pertes et aura asséché sa trésorerie. Pendant qu'elle assèche sa trésorerie, ben, elle ne peut pas investir dans le e-business, dans la logistique, dans l'innovation et dans la collection. Et c'est autant d'emplois de 2023-2024 qui ne seront pas au rendez-vous. Donc ne retardons pas les restructurations nécessaires.
Peut-être une réaction là-dessus avant de conclure avec vous, Caroline Andrès, mais une dernière réaction de Nadine de Levrato à ce qui vient d'être dit sur cette façon d'assécher. Voilà, on ne fait pas assez de restructuration aujourd'hui.
Mais je suis désolée, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Personne n'a jamais empêché une entreprise de se réorganiser. Alors si restructuration, ça veut dire des cessions d'éléments d'actifs massives, des fermetures d'établissements, il y a peut-être d'autres manières de faire évoluer les entreprises, peut-être en investissant, peut-être en modernisant l'appareil de production. On a vu dans le cas
de... Oui, mais ce que dit Patrick Puy, c'est-à-dire que maintenant les sociétés en perfusion, ben on retarde les investissements nécessaires.
Pourquoi ? Puisque justement, elles ont des ressources et des réserves qui n'ont jamais été aussi importantes. Donc, c'est peut-être le moment de réaliser des grands plans d'investissement, puisque ces ressources sont là. Et alors, je comprends que les entreprises n'aient pas envie d'investir face à l'incertitude à laquelle elles sont confrontées. Mais le déficit d'investissement, si vous voulez, et le fait que malgré des aides massives en recherche et développement, 6 ou 7 milliards de crédits impôts recherche tous les ans, les entreprises françaises, puisqu'on veut parler d'elles, soient toujours en deçà de la moyenne européenne pour les dépenses de recherche et développement, ce n'est quand même pas l'État qui interdit aux entreprises d'investir en recherche et développement et de moderniser l'appareil de production, puisque au contraire, il y a des aides pour faire cela. La question, c'est est-ce qu'on a véritablement des groupes qui arrive à penser au-delà de la restructuration synonyme de réduction de voilure et au contraire qui cherche à prendre le lead, pour utiliser une terminologie de manager, en matière de transition écologique, passage au numérique. Alors il y a des entreprises qui réussissent très bien et c'est heureux, mais en tendance et quand on regarde les médianes qui permettent donc d'avoir une vision globale de la distribution des grands moments comme l'investissement de la vie de l'entreprise, on voit qu'elle pourrait être plus dynamique et c'est peut-être là qu'il faut faire porter les efforts.
Et écoutez, ce serait l'occasion d'un autre débat. Désolé Caroline Andrès, on arrive au bout de cette émission. Je vais vous demander, j'avais encore des questions à vous poser, mais voilà, c'est la fin. Le temps nous est compté. Le temps du débat, c'est donc terminé pour ce samedi. Si vous avez raté le début ou vous souhaitez réécouter ou podcaster, c'est sur l'application de Radio France. À la réalisation ce soir, c'était Vanessa Nadjar. À la prise de son, Laurie Vachon. Merci à Sam Boutata pour son aide précieuse à la programmation et à la préparation de cette émission. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera la question vaccination, la politique a-t-elle méprisé la logistique? Avant cela, votre prochain rendez-vous avec un magazine d'actualité, c'est évidemment demain, 11h, l'Esprit public avec Émilie Aubry. Excellent week-end à toutes et à tous à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, politique.